Bonjour à tous. Je vous propose de prier avant de passer au message. Seigneur, je veux te louer ce matin pour ce temps de culte. Merci de nous accueillir dans ton Église. Merci d'être présent parmi nous pendant ces instants, que nous puissions vraiment te rendre gloire par ces moments passés ici ensemble. Inspire-nous, ouvre nos cœurs à ta parole, Seigneur, que vraiment elle puisse nous guider, nous éclairer chaque jour de notre vie. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux, on ne peut plus se fier à personne. Je lève les yeux vers les monts, d'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Alors je viens de lire là trois passages de trois psaumes différents. J'aurais pu en choisir bien d'autres. J'aurais pu commencer par le psaume 1, par exemple, qui déclare « Heureux, heureux l'homme qui écoute l'Éternel, qui suit ses commandements ». J'ai choisi de lire ces trois psaumes-là, et je reviendrai sur ces psaumes, parce qu'ils nous conduisent de la peur, de l'angoisse, à l'espérance et à la louange. Et les psaumes, le recueil des psaumes, c'est un livre de poèmes. Ce sont des poèmes par leur forme, par les figures de style employées, mais aussi par la profondeur de ce qu'ils expriment. Ils parlent de la vie avec ses joies, heureux, comme dans le psaume 1, avec ses pleurs, ses désespoirs, comme le « Au secours » que j'ai lu au début. Ils disent aussi les moments de bonheur, de louange qu'on peut connaître dans une vie, comme on le verra dans le psaume 150, par exemple. En d'autres termes, les psaumes nous parlent de notre propre vie. Qu'ils expriment la louange ou la plainte, qu'ils soient une parole individuelle, par exemple la parole du roi David, ou une parole collective, comme lorsque le peuple se rend au temple, le peuple de Dieu va au temple. Les psaumes sont des modèles de prière qu'on peut adresser à Dieu. Et ces prières adressées à Dieu nous rappellent qu'on peut parler au Seigneur, qu'il attend qu'on lui parle, quel que soit notre état d'esprit, qu'on ait envie de chanter, de danser, ou plutôt de pleurer, ou de se réfugier dans la solitude. Le Seigneur attend qu'on lui parle. Et je vous propose donc de cheminer dans ce recueil des psaumes au fil de trois textes qui vont de la colère, de la détresse, vers la joie et la louange. Et on commencera par le psaume 12. Le psaume 12, Dieu tient ses promesses. Au chef de chœur, un psaume de David, à chanter avec accompagnement de la harpe à huit cordes. Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux, on ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ces gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante, qu'il retranche ceux qui disent « Notre langue nous rend fort, nos alliés, ce sont nos lèvres, qui dominerait sur nous ?» Mais l'Éternel dit « À cause des pauvres qui sont opprimés et des malheureux qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. » Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures. C'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, tu tiens parole et tu nous protégeras. Tu nous protégeras contre ces individus. Tout autour des méchants rôdent et la corruption domine parmi les humains. David, le psalmiste ici, n'apparaît pas comme le roi puissant d'Israël, mais plutôt comme un homme tout à fait ordinaire, comme vous et moi, et qui souffre. Alors, sa situation pourrait paraître bien banale. Elle me fait penser à cette petite phrase dans une pièce de théâtre de Sartre qui dit « L'enfer, c'est les autres ». Et j'ai l'impression que ce que David vit, c'est ça. L'enfer, c'est tous ceux qui l'entourent et c'est ce qui le fait souffrir. La souffrance, finalement, de David vient de l'hypocrisie ambiante. Ce n'est pas le roi Saül, le roi d'Israël, qui a désobéi à Dieu et qui refuse de laisser la place à David. Ça n'est pas lui qui est en train de menacer David. Il n'y a pas une menace de mort qui est exprimée ici, mais simplement de la flatterie, de la duplicité. On pourrait ajouter peut-être l'ambition, les manigances, les mensonges. Face à tout cela, le psalmiste va lâcher des paroles de colère, d'incompréhension. Il s'emporte. Rien ne va plus autour de lui et il cède à la colère. Les méchants sont partout. Ils sont au début du psaume, verset 2, lorsqu'il crie au secours. Et ils sont à la fin du psaume aussi, au verset 9. Les méchants rôdent. Ils encerclent littéralement David, qui devient presque fou, souhaitant la mort de ces personnes. Il veut que Dieu les extermine. Pourtant, malgré tout cela, David continue d'espérer. Il n'abandonne pas, il ne cède pas à cette folie qui pourrait l'emporter, il ne cède pas au désespoir, mais il crie vers Dieu. Il appelle Dieu au secours. Et la réponse de Dieu, elle est précieuse, elle est pure. C'est de l'argent affiné, 7 fois purifié par le feu dans un creuset, au verset 7. La parole de Dieu, elle ne se ternit pas, elle ne s'éraille pas, parce qu'elle n'est pas influencée par la colère, par la folie du monde. Elle n'est pas guerrière, elle est parole de paix. Dieu répond à David, mais pas comme celui-ci l'attendait. Dieu n'extermine pas les flatteurs, il n'écrase pas les méchants, malgré la demande de David. Mais au contraire, il vient à la rencontre de David, qui crie vers lui. Il lui tend la main dans sa détresse. Et il donne le salut. Au verset 6, Dieu dit « Moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. » Donc déjà dans l'Ancien Testament, c'est bien un Dieu d'amour qui s'adresse aux hommes, et non pas le Dieu du jugement. C'est bien un Dieu de paix, qui répare les cœurs, qui redonne la joie. Il est le Dieu, déjà, dans ce passage, qui envoie le salut, qui envoie son Fils pour nous donner la vie. Et je lis un passage dans l'Épître aux Thessaloniciens, 1er Épître, chapitre 5, verset 9. « Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est notre secours. » Et on peut le lire dans le psaume, cette fois-ci, 121, qui sera la deuxième étape de ce parcours. Psaume 121, « Mon secours vient de l'Éternel. » Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. « Je lève les yeux vers les monts, d'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas, ton gardien ne dormira pas. » Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien. L'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni au cours de la nuit, la lune. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi, de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Alors ce psaume 121 frappe, en tout cas il me frappe par sa beauté, les images employées, les symboles utilisés, les répétitions et toute la beauté du texte original qu'on ne perçoit pas, je crois, ici. Les pèlerins se rendaient au temple et ils chantaient ces cantiques, on les appelle les cantiques des montées. Ils les chantaient lorsqu'ils gravissaient la colline pour aller jusqu'au temple de Jérusalem lors de la Pâque. La Pentecôte, la fête des cabanes. Le psaume, d'ailleurs, mentionne les faux pas que pouvaient faire les pèlerins, tout ce qui alourdit, empêche, gêne la marche. Il a été suggéré que ce psaume, 121, avait sa place le dernier jour des festivités et qu'il exprimait plutôt la tristesse des pèlerins qui levaient les yeux vers la montagne qu'ils devaient quitter. Désormais, d'où le secours, d'où viendra-t-il ? Mais n'est-ce pas plutôt un psaume d'espérance pour ceux qui s'approchent de la colline, qui sont en marche vers le temple, le mont Sion, comme le suggère le sous-titre ? La réponse, en tout cas, qu'on a dès le verset 2, elle est chargée d'espérance. Et elle initie un dialogue. Alors, on pourrait parler d'un monologue, mais en tout cas, il y a un jeu de questions-réponses. Et l'utilisation du « je » et du « tu » nous invite à nous sentir, nous, impliqués dans cet échange. Ces paroles, elles s'adressent à chacun de nous. Elles, elle me parle, elle vous parle, je crois, elle nous parle, et elle nous invite à faire de même, à nous adresser à Dieu aussi, à l'appeler nous aussi au secours. Il est notre secours. Et la réponse, elle est en effet pleine de confiance. L'assurance de la fidélité de Dieu, de ce qu'il va accomplir, on l'aperçoit dans la répétition de certains mots. On a le mot « secours » qui est répété deux fois. Alors, ça n'est pas le « au secours », mais aussi le sens du secours qu'on reçoit, de la réponse de Dieu. Il y a aussi le mot « gardien » qui est répété deux fois, « garder » trois fois, « l'éternel » quatre fois. Ce qui fait beaucoup dans un psaume aussi court que celui-ci. Donc l'invitation à se réjouir, à être confiant, elle est majeure dans ce passage. Et on peut être confiant même dans l'obscurité, même dans la nuit. C'est ce qui apparaît ici aussi, puisqu'on voit que c'est Dieu lui-même qui va faire de l'ombre à celui qui parle pour le protéger. Il nous protège, par exemple, du soleil brûlant, qui pourrait être une image du péché, de ce qui nous paraît peut-être bon, enviable, mais qui en vérité pourrait nous brûler les doigts, pour utiliser notre image. Cela me fait penser par exemple au prophète Jonas, au chapitre 4, à la fin du livre du prophète Jonas, lorsqu'il a accompli sa mission à Ninive. Voilà ce qu'on lit. L'éternel Dieu fit pousser un ricin qui s'éleva plus haut que Jonas et lui donna de l'ombre sur la tête, afin de le détourner de sa mauvaise humeur. Donc en d'autres termes, Dieu agit ici pour protéger Jonas de lui-même, pour le garder de la colère, pour adoucir son caractère. Il lui fait de l'ombre. Il y a une autre image dans le psaume qui est celle de la lune. Et la lune est souvent traditionnellement associée à la folie. Et là encore, Dieu protège. Il protège David, il protège le psaume. Alors ici, ça n'est pas David, mais dans le psaume précédent, on a vu qu'il protégeait David d'une certaine manière de la folie, de la colère. Ici, il nous protège, il protège les pèlerins aussi de ce qui pourrait les entraîner sur une mauvaise voie. Et je crois que cette image de la lune et du soleil nous rappelle aussi qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Tout ce qui est lumineux, ou la lumière, n'est pas toujours bonne. Peut-être que l'obscurité n'est pas toujours mauvaise non plus. Et tout à l'heure, Rivaud a parlé de la seule lumière véritable. Donc il y a sans doute bien d'autres lumières qui ne sont pas véritables et qui ne sont pas enviables. Ainsi, cette ombre à nos côtés suggère que Dieu est vraiment tout près. Cette ombre qui est mentionnée au verset 5, elle est tout près des pèlerins. C'est l'ombre d'une présence aimante, l'ombre d'un père qui se penche sur ses enfants, pour les prendre dans ses bras, pour les consoler, pour les rassurer la nuit venue, pour les protéger. Et Jésus, dans sa prière, nous le dit, Dieu est notre Père. Il est le Père qui nous sauve, qui sauve ses enfants, qui nous réconcilie avec lui au travers de Jésus. Dieu est en nous et autour de nous, parce qu'il nous aime, et c'est ça l'essentiel. Dans le Psaume 12, il n'était pas question de la main puissante et exterminatrice de Dieu, mais déjà de sa présence auprès de nous. Et c'est ce qu'on a ici à nouveau avec cette ombre qui nous protège. C'est-à-dire, Dieu est présent auprès de ceux qui font un pas vers lui. Alors, ce pas, ça ne sera peut-être pas un pèlerinage que nous allons faire jusqu'à Jérusalem, mais c'est déjà ce cheminement, jour après jour, qui peut nous rapprocher du Seigneur, et nous faire entrer dans la louange. Et je vais lire le psaume 150, qui est un psaume de louange. Louez Dieu en musique, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le pour sa grandeur infinie, louez-le au son du cor, louez-le au son du luth et de la cithare. Louez-le avec des danses et au son des tambourins. Louez-le avec la lyre et avec la flûte. Louez-le par les cymbales bien retentissantes. Louez-le par les cymbales résonnant avec éclat. Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Louez l'Éternel. Alors la louange retentit évidemment dans ce psaume, mais aussi à maintes reprises dans le recueil, dans le livre des psaumes. Elle apparaît déjà au psaume 12, on l'a vu, psaume qui exprime plutôt la complainte, mais qui amène quand même David à se confier en l'Éternel et à proclamer la grandeur de l'Éternel. Et de la même manière, dans l'ensemble du livre des psaumes, on retrouve à la fin de chacune des 5 sections du livre un appel à la louange. Et puis on l'a à la fin du recueil, les 5 derniers psaumes, du psaume 145 au psaume 150, ce sont des appels aussi à louer Dieu. Et ça n'est pas une louange qui va occulter tout ce qu'il y a autour, mais c'est une louange qui s'élève au milieu de la réalité que connaît la personne qui s'adresse à Dieu. L'appel à la joie et à la louange est indissociable de la réalité de la vie, aussi dure soit-elle. Et dans le psaume 150 aussi, on est invité à reconnaître ce qu'il y a autour de nous. Le psaume 150 clôture un livre qui a évoqué toute la condition humaine, qui a vraiment parlé de la détresse de l'homme, tout en célébrant la valeur inestimable de l'amour de Dieu. Parce que les psaumes nous disent, chant après chant, poème après poème, comment passer de la peur à la paix, comment on peut avoir de la joie malgré les circonstances qui parfois nous accablent, comment on peut espérer contre toute attente. Les psaumes nous disent finalement comment on peut faire confiance à Dieu même lorsqu'on traverse un désert. On peut penser aux psaumes qui célèbrent Dieu comme notre berger. Alors comment est-ce que cela est possible ? Eh bien en nous adressant à Dieu, fidèlement, simplement, humblement, sincèrement. Et c'est pour cette raison que le psaume 150 nous engage corps et âme à louer le Seigneur, que ce soit ici dans le temple ou, comme on le lit toujours au verset 1, dans l'étendue où éclate sa puissance, c'est-à-dire dans la création, partout finalement, partout et par tous les moyens. Alors ici, différents instruments sont cités, on parle du cor, du luth, la flûte, les cymbales. Le corps lui-même est invité à louer Dieu par la danse. On peut utiliser notre corps, nos talents, nos passions pour célébrer Dieu. Et nous sommes invités à lui donner ce qu'on est, ce qu'on a. Finalement, ce psaume, c'est un appel vibrant à ce qu'on élève nos voix vers Dieu, à ce qu'on le chante, à ce qu'on bouge pour Dieu, à ce qu'on avance vers lui. Il n'y a aucune autre raison à notre existence que Dieu lui-même. C'est la seule raison pour laquelle nous vivons, c'est que Dieu nous a voulu et nous a créés. Et c'est bien cela que nous rappelle l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 1. « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. » Dans une autre version, la version seconde, on lit « un culte raisonnable ». Alors un culte raisonnable ou culte spirituel, parce qu'utiliser notre corps, nos capacités, nos compétences pour le Seigneur, c'est faire ce pour quoi on a été créé, c'est reconnaître la grandeur du Créateur et lui rendre gloire. Alors, nous n'osons peut-être pas danser et chanter comme David, enfin moi la première, je ne suis pas très spontanée, mais nous pouvons lire et relire les poèmes de David et tous les autres psaumes du recueil. Nous pouvons aussi et surtout suivre le modèle de Jésus qui nous dit comment nous pouvons prier et honorer le Père. Il commence sa prière par « Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu. » Les paroles de Jésus vont d'abord au Père, commencent par louer et glorifier le Père. C'est ensuite qu'il fait appel au Dieu qui pourvoit. « Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. » Matthieu 6, verset 11. C'est alors aussi qu'il fait appel au Dieu qui guérit, qui accompagne. Versets 12 et 13, toujours dans Matthieu 6, « Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du diable. » Alors c'est vrai, Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin. On n'aurait même pas besoin de le lui dire. Mais Dieu est notre ami et il attend de nous une parole, il attend qu'on lui donne du temps, qu'on soit attentif à ce qu'il veut nous dire, il attend qu'on l'écoute et lui, il nous écoute, il nous accueille tels que nous sommes. Et de cette manière, David, le roi David, qui a laissé de nombreux psaumes, n'a cessé de crier à Dieu. Alors parfois c'était dans la douleur et parfois c'était dans la joie, dans l'allégresse. Il a osé lui dire ce que beaucoup d'autres personnes auraient sans doute voulu cacher, mais en fait on peut tout dire à Dieu et surtout on ne peut rien lui cacher. Jésus aussi a prié, il a même enseigné à ses disciples comment prier. Il a prié les psaumes et on peut penser aux dernières paroles de Jésus sur la croix qui cite le psaume 22. Et aujourd'hui, à notre tour, nous pouvons prier les psaumes. Nous pouvons relire, mais aussi redire les psaumes parce qu'ils nous révèlent l'amour de Dieu pour nous. Ils nous révèlent le plan du salut en Jésus-Christ. Nous pouvons lire et relire ces poèmes pour à notre tour élever nos voix avec nos propres mots peut-être et chanter en son honneur un cantique nouveau comme on peut le lire au psaume 33 ou psaume 149. Alors je le redis pour conclure. Oui, chanter pour l'Éternel un cantique nouveau. Célébrer ses louanges dans l'assemblée de ses fidèles. Amen.